Le lettere del carcere, donc, vous n'avez pas les lettres del carcere, mais une anthologie. Hein. Alors, cette anthologie, elle n'est pas complètement neutre. Hein. Elle est faite par, par quelqu'un qui est, qui s'appelle Paolo Spriano, hein, qui est 1925-1988, un historien italien du mouvement ouvrier du Parti communiste. Des grands textes, il a écrit des grands textes importants, hein, en particulier les deux grands Storia di Torino Operaia Socialista et les cinq volumes de la Storia del Partito Comunista Italiano. Alors, quand il était tout petit, donc, pendant la guerre, il était dans ce groupe qui s'appelait Giustizia Libertà, hein, le groupe. Le groupe hérité, enfin qui hérite de, hein, qui vient de cette tradition libérale, hein, la Rivoluzione Liberale, Gobetti, hein, etc. Les frères Rosselli, qui seront tués en France par les fascistes français, hein, etc. Enfin, voilà. Et donc ce groupe-là, un des tout premiers. Représentant politique de la rue de la nouvelle du nouveau gouvernement italien, mais il reste pas longtemps. Ferruccio Parri fait aussi partie de ce groupe là. Mais enfin, cela dit, après ce passage, mais il est gamin, il est tout petit, hein, Giustizia Libertà. Il rentre au Parti communiste. Il est journaliste à l'Unità jusqu'en 1964. Après, il est prof d'histoire contemporaine à Cagliari, à la Sapienza, etc. Il signe la lettre des 101 intellectuels contre l'intervention soviétique en Hongrie en 1956. Hein, ce qui est, voilà. Mais, contrairement à la plupart de ces intellectuels qui signent la lettre, il reste au Parti communiste. Il reste au Parti communiste. Alors, c'est... à la fois un historien important, quelqu'un qui est capable d'un regard critique sur son propre parti, etc., ce qui n'est pas complètement évident, mais il a montré cette capacité. Et en même temps, un grand attachement à son parti, et donc voilà, quoi. C'est des moments où il ne va pas complètement nettoyer les lettres. C'est pas ça son objectif, mais bon, il ne va pas forcément mettre celles qui sont les plus problématiques. Hein. Bon, voilà. Alors, il explique ses choix, hein, il explique les choix qu'il a faits. Il a travaillé immédiatement sur la seconde édition des lettres, celle faite chez Einaudi en 1965, et il a pris sur les 428 lettres que comprenait cette édition, il en a pris 156, et il dit très clairement que il les a pris pour faire un récit. Hein. Donc l'impression de récit, elle est voulue non seulement par la réalité de l'histoire de Gramsci, mais elle est aussi voulue par les choix faits par l'éditeur. Hein. Il dit très, très clairement qu'il a voulu privilégier « racconto l'iter, il ritmo di una eccezionale esperienza umana » encore prima que culturel. Hein. Alors, il y a un effet structure de ce choix, voilà. Hein, qui est sans doute apparaît moins quand on prend l'ensemble des lettres, quand on prend soit l'édition Capriolio, soit l'édition de Santucci, qui est celle que Romain vous a envoyée,
Vous avez les textes, vous n'avez pas les notes, vous avez tous les textes.
Voilà. Non, que vous avez donc en version digitale. Non. Alors, donc voilà. Donc, faut faire attention à l'effet structure. Voilà, l'effet structure. En même temps, voilà, ça donne quand même une idée assez nette. Il n'y a pas la volonté qu'il y avait eu dans la première édition dont je vous parlais tout à l'heure, faite juste après la guerre, en fait pour le 10e anniversaire de la mort de Antonio Gramsci. Donc il n'y a pas cette volonté de nettoyer ce qui gêne, hein, de ne pas parler des choses qui fâchent, hein, et donc ça permet quand même de voir le processus, hein, qui est à la fois un processus d'élaboration politique. Malgré tout, il reste pas mal de lettres d'élaboration théorique, hein. Pensez aux lettres sur les intellectuels, pensez aux lettres sur Croce et à l'hégémonie. Et sans doute une des lettres qui explique le plus clairement ce qu'est l'hégémonie, hein, que vous avez dans la série des lettres de 1932, et que vous avez en particulier dans la lettre, mais pas seulement, il y en a une série, parce que derrière, les correspondants poussent pour qu'il écrive. Hein, en particulier celle du 2 mai 1932, hein, avec la définition de l'hégémonie, hein, qui est vraiment une boîte que vous trouvez page 217 de votre édition. Voilà. Donc on a ça, hein, et on a ce parcours de quelqu'un qui donc continue à élaborer, continue, et là c'est très très violent, hein, c'est sans doute la partie la plus difficile, c'est qu'il se sent petit à petit abandonné par ses camarades de parti, par une partie de sa famille, etc., et y compris par les personnes auxquelles il tient le plus, comme son épouse Julia, etc., hein. Et là il y a toute une série de lettres qui décrivent ce sentiment là, hein. Ce sentiment de solitude, hein, sentiment d'abandon, qui, vous savez, aboutit à des choses très très violentes, enfin, hein, d'un point de vue symbolique, hein, qui sont ces lettres où il dit à Tania que sans doute il serait mieux que Julia refasse sa vie avec quelqu'un d'autre, hein, ou ses lettres où il va se demander en 33, enfin 32-33, c'est vraiment les grands moments de crise. Il y a ces crises physiques qui vont de pair avec une crise morale très très grande, hein. Donc on est parti de quelqu'un qui se redéfinit comme un combattente che non ha avuto fortuna nella lotta immediata, mais qui reste un combattente et qui est aidé dans ce combat par un certo spiritello ironico e pieno di umore che mi accompagna, hein, ou bien lo spiritello che porta a cogliere il lato comico e caricaturale di tutte le scene. Qui va l'amener à dire certe volte ho pensato che tutta la mia vita fosse un grande errore, un dirizzone. Il va vraiment pas bien, quoi. Hein, il va vraiment pas bien. C'est-à-dire que il y a une perte des forces physiques et puis ce qu'il appelle lui-même, hein, un disgregamento delle forze intellettuali. Voilà. Hein, donc, force de la volonté, et puis en même temps, désagrégation des forces intellectuelles, des forces et des forces physiques, hein, psychophysiques. Voilà. Hein, donc, il y a cette. Il y a cette stratification dans les lettres, ça se repère bien, vous pouvez vous faire des petits schémas, des trucs comme ça, vous avez de quoi travailler sur plus de lettres, hein. Il y en a quand même certaines, en faisant des recherches, y compris sur des recherches lexicales, hein, sur de la terminologie, sur toutes les lettres sur Croce, toutes les lettres où il parle d'hégémonie, toutes les lettres où il parle d'intellectuel, etc., donc ça... C'est facile à faire, et voilà. Alors, y avait un enjeu à publier Gramsci après la guerre. Hein. Il y a un enjeu sur les cahiers, il y a un enjeu sur les lettres. Hein. Il y a un enjeu sur les lettres. Vous savez que le choix donc, de la direction du Parti communiste italien donc, et de son principal dirigeant, Palmiro Togliatti, fait que il a obtenu hein, que ces lettres soient patrimoine du Parti communiste italien, c'est de publier des choses, mais en sachant que c'est chaud, chaud, chaud. Enfin, c'est chaud, chaud, chaud. Donc, pour comprendre que c'est chaud, 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 il faut savoir que les mecs du PC, avant les années 50, ils enlèvent les bouquins de Trotsky, de Rosa Luxembourg, qui sont dans la bibliothèque des livres de Gramsci. Il y a le mec qui écrit à Togliatti, écoute, il y avait des bouquins de Trotsky dans le machin, je les ai enlevés. Hein. Enfin, je sais pas, il lui dit, malgré tout, il lui dit, mais bon, ça va de soi, on va les enlever, on va pas laisser ça pour que nos ennemis puissent s'appuyer là-dessus. Non pas donner d'armes à l'ennemi, donc les trotskistes restent des ennemis. C'est, je vous ai dit, là, on est ce que je vous parle, c'est en 1950, 7 ans avant, Tressot tué par les communistes français à la sortie des geôles allemandes. Hein ouais. Donc, il n'y a pas de pitié. Hein. Donc, pas de pitié. Donc, ça veut dire que la lettre que je viens de vous lire, là, elle ne va pas y être dans les éditions. On ne peut pas laisser un dirigeant de la classe ouvrière italienne dire. Certaines fois, j'ai pensé que toute la mia vita fosse un direzione. Je ne peux pas laisser dire ça. Donc, voilà. Première édition, elle nettoie la maison. Elle est. On peut en avoir une idée. Je n'ai pas retrouvé la version italienne originale, mais j'ai trouvé la version française originale qui est faite. Il y a 218 lettres hein, qui a été traduite en France assez rapidement, en 1953, si je ne me trompe pas. La première, hein, voilà, et en 53, voilà. Et avec après un texte qui présente Gramsci, qui a le texte qui avait écrit Togliatti en 1937, hein, qui s'appelle Antonio Gramsci, capo della classe operaia italiana. C'est là où il dit c'est un fils de paysan pauvre, etc. C'est comme Maurice Thorez, mineur. Enfin, il a été mineur, mais 6 mois. Alors, fils du peuple. Donc là, lui, fils de paysan pauvre. Il le publie juste pour le 10e anniversaire, donc en avril 47. Hein, publie vraiment pour le. C'est le premier texte de Gramsci. Hein, évidemment, ça a un sens très très fort. Un, c'est pas fait dans une maison dans les maisons d'édition du parti, donc c'est ben, tout ce qui va être cette grande tradition de publication dans des maisons du parti. Après, alors là, je pense qu'il n'y avait pas déjà Editore Riuniti, mais enfin ce qui va devenir Editore Riuniti ou Edizioni Rinascita, etc., c'est publié chez voilà, les principaux amis. Dans le monde des intellectuels, etc., qui sont la Casa Editrice Einaudi, qui est Caffi d'anciens du PC, mais pas seulement. Hein. Calvino, il est à ce moment-là au PC, mais Natalia Ginzburg, la femme de Leone Ginzburg, qui est quelqu'un de Justicia et Libertà, du groupe de Gobetti, etc. Donc, voilà. Mais c'est l'idée de. Voilà, précisément, cette idée est complètement liée à l'idée des intellectuels, du rôle des intellectuels, etc. Mais pas forcément dans le sens gramscien, en tout cas dans le sens plutôt des grands intellectuels traditionnels. Hein. Publié là, et ils obtiennent, chose exceptionnelle, plus jamais, ne s'est plus jamais vérifié depuis, ils obtiennent le prix Viareggio de 47 pour les lettres de Gramsci. Parce que normalement, tu ne donnes pas ce prix à quelqu'un qui est mort. C'est la seule fois dans l'absolu où ce prix a été donné à quelqu'un qui était mort. Il obtient donc considéré comme une œuvre littéraire importante. Alors vous savez, parce que vous avez lu les quelques pages de Spriano qui sont dans la note introductive, qu'il y a toute une série de gens qui, et parmi ceux qui sont vraiment importants pour ça, il y a Dom Benedetto qui fait cette déclaration sur voilà, il libro appartiene anche a chi è di altro o opposto partito politico, hein, e come uomo di pensiero Gramsci fu dai nostri, di quelli che nei primi decenni del secolo in Italia attesero a formarsi una mente filosofica e storica adeguati ai problemi del presente, no? les premières années, il lit Croce, évidemment, non, c'est ça que ça veut dire, mais bon, voilà, en tout cas, éloge, quand, c'est vrai que c'est, même comme ça, même manipulé, même avec des choses en moins, etc., il reste la force, hein, de ce parcours, et le caractère tragique de ce parcours, hein. Il y a vraiment les deux tout le temps, hein. C'est vraiment là, hein, à la fois une grande force morale et de résistance. Jamais il va signer. Enfin, c'est quand même le gars qui va jamais signer une demande de grâce, quoi. La seule chose qu'il accepte de signer, c'est que s'il est en liberté conditionnelle, il ne fera pas d'intervention politique. Il demande jamais la grâce. Et quand on lui laisse entendre que peut-être il pourrait la demander, il dit que non, 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 on ne peut pas. C'est une chose que je ne ferai pas parce que ça équivaudrait à un suicide politique, hein. Qui vaudrait un suicide politique, hein. Et voilà, quelqu'un qui, c'est, il écrit ça à son frère en 1927. Je suis simplement, io sono semplicemente un uomo medio che ha le sue convinzioni profonde e che non le baratta per niente al mondo. Et ça, à aucun moment, hein, il va revenir en arrière sur ces choses-là. Et donc, voilà. Donc, voilà pour la tentative. Après quoi, comme pour les cahiers, parce que voilà, pour les cahiers, Toliat, tout en au départ, disant, voilà, on fait notre Gramsci, les lettres. Tout de suite après vont commencer la publication des cahiers, etc., avec les mêmes choses. Laissant ce que lui, la direction du parti, estime comme étant l'essentiel, et pour que tout le monde comprenne ce qui se passe, il dit, voilà, il a écrit un livre qui s'appelle « Un intérêt sur Machiavel et la politique », où il a écrit un livre sur « Matérialisme historique » et la philosophie du Benedetto Croce. Il a écrit un livre sur « Littérature et vita nationale ». Et ils font des livres. Ils lui fabriquent des livres. Hein. De la même façon que les amis de Simone Veil, la philosophe, vont lui faire écrire un livre qu'elle n'a jamais écrit, qui s'appelle, mais qu'on croit encore qu'elle a écrit souvent, qui s'appelle « La pesanteur à la grâce ». Et elle a écrit un truc qui s'appelle « Les cahiers de Marseille ». Ouais, pareil. Donc, ils ont fait le même coup, hein, parce que pareil, mais pour faire comprendre, pour faire connaître, il ne faut pas rentrer dans les trucs compliqués. Donc les lettres, on ne va pas mettre les trucs compliqués. Qu'est-ce que c'est que ce dirigeant de la classe ouvrière qui dit que c'est un grand erreur et la mia vita, ma siamo pazzi, insomma, cosa sta roba. On l'enlève, mais malgré tout, on dit attention, là, il y a quelqu'un d'important qui va vous aider à réfléchir. Bon. Donc. Parallèlement, il préparait une édition plus vaste où là, il n'y avait plus de... Pratiquement, il n'y avait plus dans la deuxième édition, celle de 1965, donc 10 ans avant la nouvelle édition des cahiers, mais il y a une nouvelle édition des lettres, toujours chez Einaudi, et là, il y a 428 lettres, et puis, en 1996, hein, avec des rééditions, Santucci, celle que Romain vous faisait voir, voilà, chez Sellerian, publie donc avec les lettres récupérées dans la famille, des trucs comme ça. Donc voilà. Voilà. Et là, il y a le projet le plus invraisemblable de l'épistolario, dont pour chaque mois, tu as un volume, quoi. Pour chaque mois, sur 20 ans, tu as un volume, quoi, en gros, tu vois. Donc, Il sortira. Nous, on ne le verra pas. Vous, peut-être, à la retraite, vous le verrez quand vous serez à la retraite. Vous pourrez vous acheter à l'épistolale au complet. Il faudra des 123 mètres linéaires pour le mettre. Enfin, bon, voilà. Mais il y aura tout. Alors, évidemment, on voit bien. Hein, c'est le truc. Le bouquet philologique, il y a les lettres de Gramsci, il y a les lettres de Tagne, il y a les lettres de Zlaff à Tagne, il y a les lettres de Toliat à Zlaff, les lettres de Zlaff à Toliat, il y a les lettres de Giulia à Tagne, il y a les lettres de Tagne à Giulia, les lettres de Giulia à Gramsci, les lettres de la Teresina. Le monde entier lui écrit, et lui, il écrit au monde entier. Et on a tout, finalement, on peut comprendre. Bon, ça va être compliqué qu'on y arrive, mais bon, voilà. Donc, on ne verra jamais. Hein. Là, il y a deux volumes de parus, etc. Ils n'ont pas l'idée de les mettre en ligne. Ils veulent faire un truc en papier qui va coûter chaque volume 90 euros. Enfin, bon, ouais. Mais enfin, ça sera grandiose.
Dans ce qu'il y a, il y a...
Grandiose.
Un volume pour de tout de 1910 à 1922.
Ouais.
Donc là, voilà. Et puis... Un volume, janvier juste pour l'année 23.
Même pas, janvier-novembre.
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 Et après, effectivement, ça va se réduire de plus en plus.
Ça, c'est les moments où la tension philologique devient un peu folle, quoi. Hein, faut dire la vérité. Comme les gens, on va vraiment y arriver à trouver le...
C'est une tradition italienne aussi très monumentale d'édition monumentale.
Ah, c'est monumental. Ouais.
Il y a tout,
et après, ils ne vendent pas.
C'est pas mal d'avoir tout en même temps.
Ah, ça sera génial. Mais bon,
ça on ne le verra pas.
Non, on ne verra pas. Alors, Tagne et Piero. Tagne est restée en Italie. Elle est née en 1887 et elle va mourir pendant la guerre en 1943. Et elle était donc en Italie depuis 1908, mais n'était pas rentrée avec sa famille après la Révolution. Hein, ouais, donc elle était... Et en fait, Gramsci, quand il revient en Italie après son élection de 24, donc quand il revient en Italie, il commence à la chercher. Hein, et qu'ils savent qu'en gros, elle est à Rome, mais on ne sait pas où elle est. Et il rentre en contact avec Giulia en janvier 1925. Donc il la connaît à ce moment-là. Ça se passe très bien. Il écrit à Giulia le 2 février 1925. « È molto simpatica tua sorella. In Russia sarebbe una straordinaria lavoratrice e comprenderebbe tutte le necessità della lotta. » Et alors, il comprend... Les nécessités de la lotta en Italie et elle aussi donc doit trouver molto simpatico Nino et elle commence à travailler avec lui. Et qu'est-ce qu'elle fait? Alors ça c'est rigolo parce que elle fait une traduction en italien de quoi? D'un chapitre du manuel de Bucharin pour la formation les écoles de formation du parti. Donc il connaît vraiment bien le truc puisqu'il donnait à lire à ses camarades comme manuel de formation. Hein, donc voilà. Donc bon, elle fait une traduction d'un chapitre du livre sur le matérialisme historique de Bucharin. Et alors, elle est payée, là, en l'occurrence, elle est payée par le Parti communiste d'Italie. Hein, payée par le... Et de fait, là, on peut dire qu'à partir de là, elle joue un rôle de secrétaire de Gramsci, et en tant que telle, en rapport direct avec la direction clandestine... Parti communiste, en particulier avec Camilla Ravera, etc. Les gens qui s'occupent de l'organisation clandestine. Hein. Ouais. Alors, il y a un truc entre son lien avec le Parti communiste d'Italie et avec Gramsci, et puis avec les soviétiques, puisqu'elle demande un passeport soviétique, et elle va être employée à l'ambassade soviétique et elle déclarera, quand elle reviendra en Union soviétique en 1939, elle déclarera qu'elle a travaillé comme traductrice dans le département du représentant du NKVD. donc le représentant du NKVD à l'ambassade à Rome. Le NKVD, c'est le voilà, c'est la police, la police politique. Hein, le NKVD, c'est pas, voilà, c'est la. Hein, c'est, surtout dans ces années-là, voilà, c'est police, espionnage, répression des ennemis du peuple, etc. Hein, c'est. Et en même temps, elle est il principale, hein, quand à partir du moment où donc Graham qui est incarcéré, elle va donc faire un lien avec les soviétiques et jouer, continuer à jouer ce rôle de secrétariat en étant le canal par lequel passent les lettres de Gramsci à sa famille, mais au-delà de sa famille, à ses amis politiques, etc. Et c'est à elle qu'arriveront les autres lettres qu'elle-même va renvoyer. Hein. Elle joue un rôle vraiment décisif là-dedans. Donc ça veut dire que les rapports sont effectivement des liens d'affection incontestables. Hein. On les voit, etc. Quand il y a des lettres assez... Il l'engueule, etc. Enfin, vous voyez, les lettres sont assez parfaites. Enfin, vraiment, il dit, hein, t'arrêtes de faire ça, etc. Il fait un peu... Alors qu'en fait, il est plus petit qu'elle, quoi. Il lui devrait le respect, en fait. Enfin, bon. Et il est un peu...
Enfin, il est un peu chef, quoi.
Il fait un peu le chef, ouais. Et elle-même... explique quand même que au-delà de ça, hein, c'est Nine en vraiment de temps en temps elle se révolte, vous avez vu. Hein, alors là, il faudrait quand même qu'on vous fasse avoir les lettres d'échange entre Tania et Nine, hein, sur la question des doux et mondes, hein, parce que là c'est vraiment là, elle se laisse pas faire d'habitude. Elle dit, mais non, mais c'est bon, Nine, t'es gentil et tout, ouais, d'accord, je ne ferai plus, je te promets, etc. Ouais, tu l'as encore fait, t'as encore oublié, et tu vois, je pense quand même que je t'avais dit. Il faut dire, c'est le pauvre. Enfin bon, bref. Donc voilà, il fait un peu le chef, puis il est dans tel état qu'effectivement, on voit bien que son truc, il y a une vraie affection, une vraie compassion, enfin, il y a un vrai truc très très fort, quoi, entre elle et Nine. Mais il y a une fois, il ne cesse pas faire, c'est sur cette discussion sur Ido et Monde, où il la traite de tout, hein, il la traite de sang noir, enfin de fasciste, de fasciste russe, après quoi il la traite de sioniste, après quoi, enfin bon, il lui dit tout, et il ne cesse pas faire. Donc on va les scanner, puis vous les faire passer. Et là, il explique bien qu'en fait, senza di me, Nino sarebbe isolata da tutto il mondo, perciò oltre al mio rapporto con lui, i compagni hanno richiesto la mia attenzione per aiutarlo. Donc il y a une fonction d'affection, mais il y a une fonction directement politique. Et l'autre personne qui joue ce rôle d'affection, enfin, là où lui aussi de l'affection incontestable, hein, d'une très forte amitié, mais qui joue aussi un rôle politique, qui est Piero Zraff. Alors, Piero Zraff, lui, il est plus petit. 1898, hein, il a 7 ans de moins que Nine. Et il va mourir voilà, en 1983, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est donc qu'il était étudiant à Turin, et Gramsci l'a connu par l'intermédiaire de quelqu'un qui revient souvent dans les lettres, hein, et qui est le professeur, il mio buon professore Umberto Cosmo. Celui auquel il demande son avis sur ce qu'il a écrit sur la Divine Comédie, sur le chandiste de l'enfer. Zraff a collaboré à l'Ordine Nuovo dans les deux versions, l'hebdomadaire et le quotidien. Gramsci avait proposé en 1923 à la direction du PCD de confier à Zraff à l'organisation d'un observatoire international sur les problèmes de travail. Hein, parce que Zraff était déjà à ce moment-là à la London School of Economics. Il travaillait avec Keynes, etc. Et il commençait le travail de toute sa vie qui va être l'édition complète des œuvres de David Ricardo. Hein, ouais, que vous trouvez aussi dans les lettres. Hein, l'expression, le marxisme, Marx, Hegel, Hegel plus Ricardo. Hein. J'ai écrit ça dans une des lettres. Alors, bon, il semble que dans la fin des, à la fin des années 20, là, etc., bon, il y a un truc assez rigolo comme ça, c'est tu lui dis que Tania dit que Nina lui a dit que Zraf s'occupait du commerce des dates. S'il occupait du commerce des dates. Donc vous essayerez de comprendre ce que ça veut dire. Mais non, ça veut dire tout bêtement, là vraiment, c'est vraiment... Pourquoi ça ? Il laisse entendre, c'est pour laisser entendre. Alors là, c'est pas un truc, c'est pas une lettre entre eux, c'est pas passé par la censure. C'est Tania écrit, hein, écrit que, voilà, pour faire savoir que il est en train de s'occuper de quelque chose qui est dans le processus clandestin de financement du parti. Hein, ouais. Donc, ça veut dire que... alors bon, pas sûr que les geôliers, en lisant des trucs comme le commerce des dates ou le commerce des bananes, là, c'est le commerce des bananes, c'est pour son frère, se disent pas, ils se foutent de la gueule, quoi. Ou ne soit pas allé lui dire, écoute, on a compris ce que ça veut dire, laisse tomber, quoi, tu vois, arrête de, tu vois. C'est bon. Ouais, sur les commerces des bananes, ouais, bon, d'accord. Bon. Enfin, bon, ils continuent à croire qu'en faisant ça, c'est quand même, ils continuent à croire quand même qu'ils ne savent pas qu'il est c'est un dirigeant du Parti communiste. Bon, on parlait, pas tout à l'heure, mais la prochaine fois. Ouais, bon, quand même, ils ne sont pas idiots à ce moment-là. Quoi. Bon. Donc, ils s'occupent du commerce des dates, et le frère de Gramsci, Carlo, s'occupe du commerce des bananes. Mais c'est intéressant, c'est que, donc, vous voyez, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en prison, il continue à demander, alors, ça marche bien, le commerce des dates, etc. Voilà. Alors, important, le père de Piero Zraf, Angelo, est quelqu'un d'important dans la franc-maçonnerie italienne. Hein, dans la franc-maçonnerie. Et son oncle, donc... Mariano D'Amelio est le premier président de la Cour de cassation et c'est un sénateur du royaume. Et donc, malgré tout, pour des raisons hein, qui font que voilà, c'est pas des fascistes convaincus du tout, et donc ils vont donner un coup de main, ils vont donner des informations. Et en particulier, ils vont jouer un rôle dans l'obtention de la liberté conditionnelle de Gramsci en 1934. Ouais. Hein. Parce que voilà, c'est des gens, ils sont intouchables par les fascistes. Ça fait partie de... Voilà, ils peuvent pas les mettre en prison. Mariano D'Amelio, premier président de la Cour de cassation et sénateur du royaume. Donc voilà. Donc là, il y a par Zraf des possibilités. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord du tout avec leur fils ou leur oncle, ou encore pire, avec les amis de leur fils ou de leur neveu. Hein. Mais voilà, c'est la famille. Alors, les liens d'amitié sont incontestables, mais là aussi, le parti a demandé explicitement, et Togliatti, en personne qui connaissait aussi Zraf depuis Turin et l'Ordine Nuovo, ont demandé d'intervenir aux côtés de Tania pour être une espèce de ligne. Hein, qui faisait passer les informations d'un côté comme de l'autre. C'est lui. Alors, donc, il y a le côté public. Il lui envoie des livres quand il est à Oust. Et il lui a ouvert un compte dans une librairie à Milan. Mais surtout, il fait le lien hein, entre... Donc, Tania lui écrit. Lui, il écrit à Tania. Tania écrit à Gramsci. Et quand c'est nécessaire, lui... demande l'avis du centre du parti à l'étranger. Et donc, quand il écrit toutes les lettres sur les intellectuels, c'est parce que le parti dit ça serait bien que Nin nous envoie 10 pages, 50 ou au moins 10, vous rappelez de la lettre. 50 ou au moins 10, alors l'autre il dit c'est compliqué, etc. Et Julia lui répond, Tania lui répond, écoute, toi quand tu étais petit, tu disais Pierre, il n'écrivait pas, maintenant tu vas pas faire ton on est farouché, tu vas nous écrire les 50 pages. Ah ouais, mais c'est compliqué, j'ai pas de bibliothèque, etc. La même façon sur la Storia d'Europe de Croce, il y a la série, y compris la lettre dont je vous ai parlé tout à l'heure et la référence sur l'hégémonie, c'est une demande explicite, on aimerait bien que tu nous dises des choses sur la Storia d'Italia de Croce, parce qu'on aimerait écrire des choses. Storia d'Europe de Croce, et voilà. Donc voilà, hein. Donc une vraie amitié, mais aussi une vraie fonction politique.